Laissons-lui tout. Laissons-le tout pour vous. J'invite le frère Jean-Pierre pour la prédication.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte la salutation de l'Église de Saint-Denis et tous les frères et sœurs de l'Église de Saint-Denis vous saluent. J'espère que tout ce que nous avons chanté, c'est vrai. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout. Mon cœur, mon âme et tout mon être. Ce matin, je vais devoir vous dire qu'un croyant peut pécher. Nous sommes tous des monuments vivants de ce fait, n'est-ce pas? Et de plus, un croyant peut cacher son péché. Nous savons que nous luttons sans cesse avec notre nature pécheresse. C'est une réponse naturelle pour contenir et dissimuler nos péchés. Ce n'est que pour cette raison que nous avons la police et la justice. Si ce n'est pas le cas, quel est le besoin de ces choses? Cela a toujours été comme cela avec l'ensemble de la race humaine. Depuis nos premiers parents, Adam et Ève, n'est-ce pas? La Bible nous dit que dès que Adam et Ève ont péché et se sont cachés, il n'y avait personne dans le jardin d'Éden à part d'eux-mêmes, mais ils se sont cachés de la lumière. La parole nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Il n'y avait personne d'autre, sauf Adam et sa femme Ève, mais ils avaient besoin de se cacher à cause de leur péché. Ce matin, nous prenons le psaume 32. J'en suis sûr que vous avez entendu beaucoup de prédications sur ce psaume. Comme beaucoup d'autres psaumes, hein, c'est un psaume de David. Le psaume 32 a été écrit par David. Il est l'un de sept psaumes pénitentiels, les autres étant le psaume 6, psaume 38, psaume 51, psaume 102, psaume 130 et le psaume 143. Il est fort probable que David ait écrit cela à la suite de son péché avec Bathsheba dans 2 Samuel chapitre 11. Cela semble très similaire au psaume 51. Si vous lisez le psaume 32 et le psaume 51, ça paraît très similaire. Où nous savons par l'introduction que le péché confessé était celui de l'adultère avec Bathsheba. Et l'introduction de psaume 51, il lit ainsi, « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » Dans l'ordre chronologique, le psaume 32 devait suivre le psaume 51, c'est-à-dire le psaume 51 devrait être placé avant le psaume 32. Les deux psaumes ont été écrits après que David ait réalisé quel grand péché il avait commis quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. C'est près d'un an après avoir péché qu'il a pu reconnaître qu'il avait péché contre l'Éternel. C'est le prophète Nathan qui est venu le réprimander. Le genre de langage utilisé suggère que le psaume 51 a été écrit très peu de temps après cet incident. Le psaume 32 a été écrit probablement quelque temps plus tard, lorsque David a eu plus de temps pour comprendre les conséquences de son péché et du pardon, et aussi de la restauration de Dieu. Arrêtons-nous un moment pour méditer sur la parole de Dieu. Le mot « Selah », je ne sais pas combien de fois nous avons rencontré ce mot « Selah » dans le psaume, et surtout dans le psaume, se trouve dans deux livres de la Bible, mais est plus répandu dans le psaume, où il apparaît plus de 71 fois. Le mot « Selah » ou dans la Bible française, vous allez trouver le mot « pause ». Il se trouve plus de 71 fois. Il apparaît également trois fois dans le troisième chapitre du prophète Habakkuk. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la signification de « Selah ». La plupart des versions de la Bible n'essayent pas de traduire « Selah », mais traduisent simplement le mot directement de l'hébreu. Le Septante a traduit le mot par « déplacement », une division, c'est-à-dire une division. Les érudits bibliques bien intentionnés ne sont pas d'accord sur la définition de Selah, sur sa parole racine, mais puisque Dieu a ordonné qu'il soit inclus dans sa parole, nous devrions fournir un effort pour découvrir du mieux que nous pouvons le sens. Un commentateur pense que cela vient de Selah, faire une pause. De Selah vient la croyance que Selah est une notation musicale signifiant un repos pour le chanteur et ou les instrumentalistes qui ont interprété les psaumes. Si cela est vrai, alors chaque fois que Selah apparaît dans un psaume, les musiciens s'arrêtent. Le péché, la transgression et l'iniquité. Heureux celui qui a la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Au début de Psaume 32, vous voyez ces trois mots, transgression, péché et iniquité. Le mot hébreu pour transgression et pécha. Cela signifie défiance, franchir la ligne, rébellion, rejet de l'autorité de Dieu, anarchie, désobéissance. Vous voyez, il y a plusieurs sens pour ce mot péché. C'est défiance, franchir la ligne, désobéir Dieu. C'est la rébellion, rejet de l'autorité de Dieu. Hein, je pense que dans l'histoire de Saül, Dieu dit, ce n'est pas toi que le peuple se rejette, c'est moi qui te rejette. Rejet d'autorité de Dieu, anarchie, désobéissance. Enfin, nous voyons que le péché est la rébellion. Le mot hébreu pour le péché est aussi Chata, qui signifie manquer la cible, manquer le but. Dieu a un grand but dans notre vie et nous manquons ce but. Nous perdons ce destin qui est la gloire. Et la parole nous dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il a mis en marque un niveau à atteindre. Quand on rate le niveau, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Le mot hébreu pour l'iniquité est avon, qui signifie perversion. Perversion. Et parfois, on est assez simple comme les hommes. Hein. On peut diminuer le mot péché très simplement. On dit, j'ai commis un péché. Ou moins que cela, on peut dire que j'ai commis une erreur. C'est une erreur. Hein? Mais le mot hébreu pour iniquité, avon, qui signifie perversion, déformer délibérément la parole de Dieu et la volonté de Dieu à des fins égoïstes. Et combien de fois nous pouvons utiliser la parole de Dieu et déformer la parole de Dieu à notre fin égoïste? C'est exactement ce qu'il a fait, Satan. Il a utilisé la parole de Dieu à son fin égoïste. il a tordu la parole de Dieu à son propre gré quand il est venu pour tenter le Seigneur. Isaïe 53 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. On trouve les deux mots ici, transgression et l'iniquité. Et qu'il a porté le péché de beaucoup. Peut-être dans les autres versions, on ne trouve pas les mêmes mots, mais dans la version Darby, nous trouvons le mot transgression et l'iniquité. Et qu'il a porté le péché de beaucoup. Isaïe 53, je crois, 16, verset 5. La Bible nous dit aussi que le péché est la désobéissance. La désobéissance est un mot plus doux pour la rébellion. On peut dire que je désobéis Dieu facilement, mais nous ne pouvons pas accepter que nous avons rébellé contre Dieu. Et chaque fois que nous désobéissons Dieu, nous rébellons contre Dieu. La Bible nous dit que le péché est l'anarchie. L'anarchie n'est rien d'autre que la rébellion. L'anarchie est rien d'autre que la rébellion. Le péché est l'indépendance. Il suit notre propre chemin. Regardez ce que Isaïe 53, 6 dit. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, la Bible nous dit que le péché est l'anarchie. L'anarchie n'est rien d'autre que la rébellion. Donc, le péché est l'indépendance que nous pouvons prendre pour nous-mêmes, la liberté que nous pourrons prendre pour nous-mêmes, et en suivant chacun sa propre chemin, sa propre voie. Le péché est la corruption. C'est pervertir la parole de Dieu. Corruption, c'est pervertir la parole de Dieu. La voie de Dieu est pervertir la volonté de Dieu. Quand on peut pervertir la parole de Dieu, on peut pervertir la volonté de Dieu, on peut pervertir la voie de Dieu, et tout ce qui est fait par volonté de soi et pour l'autosatisfaction est un péché. Si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, sans obéir la voie de Dieu, sans obéir le commandement de Dieu, sans obéir la parole de Dieu, et nous faisons pour notre autosatisfaction, et ça c'est un péché. Dans les versets 3, 4 et 5 de Psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consommaient, je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, quand David a péché avec Bathsheba, il n'a pas reconnu son péché immédiatement. Il a tout fait pour cacher, pour camoufler les choses. Il a tout fait pour cacher les péchés. Jusqu'à le moment que le prophète de Dieu, Nathan, il vient vers lui, il fait face à David, il dit que c'est toi. Tu as commis cet péché horrible. Comme je vous l'ai dit au début, qu'un croyant pouvait pécher et que lorsqu'il pêche, son réflexe naturel est de cacher aux autres et à Dieu. Et je pense que tout le monde en fait. Mais vous savez, rien que les choses simples, hein, ça nous arrive de tous trébucher et tomber par terre. Hein. Moi, je fais plusieurs fois. Peut-être que vous ne faisiez pas autant que moi, mais je trébuche assez souvent. Et quand on tombe, au lieu de lever, la première chose qu'on fait, on voit autour de nous pour savoir que quelqu'un m'a vu. C'est ça qu'on fait, premièrement. Si quelqu'un m'a vu, parce qu'on veut cacher cette chose. On veut camoufler ces choses. Donc, c'est une réflexe naturelle de cacher aux autres et à Dieu. Soit il cache son péché, soit il cache lui-même des autres et de Dieu. Il joue le jeu d'autruche. Vous vous souvenez, à quand de la tribu de Judas qui a caché son péché? On trouve cette histoire dans Josué chapitre 7. Et Achan, il a pris des choses pour lui parce qu'il avait de beaux manteaux et d'autres choses. Il a caché, il a creusé, il a caché le butin, le trésor, sous la terre. Et nous savons ce qui s'est arrivé à cet homme, Achan. Un autre exemple serait Jonas qui a désobéi Dieu. Moi, je lis le livre de Jonas, premier chapitre. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa. Il trouva un navire qui allait à Tarshish. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarshish, loin de la face de l'Éternel. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Soit on cache le péché, sinon on cache lui-même. Oui, parfois le sommeil pourrait être utilisé comme un instrument pour se cacher des autres et de Dieu. Un pécheur qui n'est pas encore confessé ses péchés, qui n'est pas reconnu ses péchés, il peut essayer de cacher son péché simplement en fermant les yeux et en dormant. Et ou en se fermant dans une chambre tout seul. Mais savez-vous que ce que la Bible dit à ce sujet, en Jean 1:6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le péché d'Anaïs et Saphira n'était pas seulement de voler l'argent de Dieu. Ils ont volé l'argent de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas seulement voler l'argent de Dieu, mais c'était quand ils ont fait croire à toute l'Église qu'il était spirituel. Non seulement ils ont volé l'argent de Dieu, mais plus grave que cela, ils ont fait croire à toute l'Église, l'Église primitive, qu'ils étaient très spirituels, des gens très spirituels. L'une des plus grandes allégations que j'ai entendues contre l'Église et les chrétiens est qu'ils sont des hypocrites. Je sais que vous seriez d'accord avec moi quand je dis cela, car vous aurez également entendu la même accusation de vous-même. Souvent, on entend les gens qui disent que les chrétiens sont des hypocrites. L'Église est remplie d'hypocrites. Et d'ailleurs, j'étais de ceux qui lançaient cette accusation sur les chrétiens avant que je devienne moi-même chrétien. Une des raisons pourquoi je ne voulais pas devenir chrétien avant que je devienne chrétien, c'était que je pensais que l'Église était remplie d'hypocrites. Dans la langue anglaise, il y a un proverbe qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or et tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des saints. » Certes, nous sommes capables de jouer les hypocrites dans l'église comme Ananias et Saphira. Parfois, l'hypocrisie peut être camouflée avec des questions auto-justifiantes comme « Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous savez qui a posé cette question? Quand Dieu l'a posé la question à le premier meurtrier, Caïn, et il pose cette question à Dieu au lieu de répondre, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn venait de tuer son frère Abel, vous voyez. Et parfois, avec une grande marque d'amour, on peut jouer l'hypocrite. Et comme Judas a trahi Jésus avec un baiser. L'hypocrisie, c'est quand vous prétendez que vous avez atteint le but, quand vous n'avez pas encore tiré la flèche. On n'a pas encore tiré la flèche, mais on prétend comme si on a atteint le but déjà. Je pense que nous devrions honnêtement poser cette question à nous-mêmes. Où on est avec cette hypocrisie? Un autre exemple spectaculaire serait Nadab et Abihu dans l'Ancien Testament. Il était au premier plan de la réunion du culte d'Israël. Tous les yeux de l'Assemblée d'Israël étaient rivés sur ces gens, Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron. La prêtrise semblait prometteuse pour Nadab et Abihu. Le saint Dieu d'Israël les avait personnellement mis à part pour servir comme prêtres. Leur pedigree familial était riche et leur préparation étendue. Ils étaient vêtus de robes et de ceintures spéciales. Le turban sur leur tête tenait une plaque d'or portant la mention « Saint pour l'Éternel ». Le son de leur offrande d'ordination était encore sur leurs oreilles, leurs pouces et leurs orteils. Ils apparaissent comme des saints devant l'Assemblée d'Israël, hélas. On peut comparer à nous-mêmes, hein? Nous sommes appelés pour être des sacrificateurs. On est appelés pour être des saints. Et tout le monde peut nous voir comme l'Assemblée d'Israël, ils ont vu Nadab et Abihu ce jour-là. Le processus d'ordination a probablement duré plus longtemps que leur ministère. Leur ministère a duré très courtement. Dieu les a tués sur place de manière dramatique. Nadab et Abihu. Et ici le psalmiste, je ne les accuse pas d'être des exemples d'hypocrisie. Mais ce jour-là, il avait l'air différent de ce qu'il était vraiment. Ils ont commis des péchés déjà. Ils ont dans leur cœur l'élément pour commettre le péché. Mais ils étaient habillés différemment et prêts pour le service du Seigneur. Faisons attention à notre apparence et venons adorer le Seigneur avec l'esprit introspectif. Et avant que nous venions pour l'adoration, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, nous devrions faire une rétrospection en nous-mêmes. Comment je suis à l'intérieur? Et seulement moi, je peux faire cela. Bien sûr, Dieu le sait, mais seulement moi, je peux faire ce travail. Mais des autres, ils ne connaissent pas mon état actuel. Tant que je me suis tue, mes os se consommaient, gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Dans le psaume 51, David, il répond, il demande Dieu de laver, de purifier tout cela. Mais dans le psaume 32, il dit comment il est soulagé après avoir confessé ses péchés, son péché. Combien il est soulagé, combien il est heureux. C'est ça le psaume 32. Cependant, avant la confession de David concernant son péché, nous voyons le tourment du péché non confessé dans ces versets. Une relation étroite avec Dieu n'est pas possible à travers un voile de tromperie et de péché non confessé. Et quand nous sommes dans l'adoration, quand nous venons pour adorer notre Dieu, nous sommes en étroite communion avec Dieu. Et on ne peut pas avoir une voile qui nous sépare de Dieu si nous avons encore des choses qui n'est pas confessées dans notre cœur, encore des péchés qui n'est pas confessé. Ce n'est pas uniquement avant que la table du Seigneur, avant que nous participions dans la table du Seigneur, nous devrions confesser notre péché. C'est tous les jours, n'est-ce pas? C'est tous les jours. Et chaque fois, nous tombons, nous trébuchons, nous devrions aller devant le trône de grâce de Dieu pour confesser notre péché, pour demander pardon. David parle maintenant de son expérience pécheresse. Il avait vécu dans un état pécheur pendant près d'un an. Il l'a fait sans reconnaître qu'il avait péché, mais cela a eu un impact profond sur son corps et son esprit. Il garda le silence en essayant de dissimuler le mal qu'il avait fait. Tant que je me tue, mes os se consommaient. Cela signifie que cela affecte au plus profond de son être. Quand nous disons au plus profond de son être, on peut penser à Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi. Mais tout à l'heure, je pense que la compassion, c'est les entrailles. C'est tout ce qui est en nous. D'accord? Le péché atteint tout ce qui est en nous. Tant que je me tue, mes os se consomment. Cela signifie que cela affecte au plus profond de son être. Nous imaginons rarement que le péché affecte tout notre être. On pense que le péché, parfois, certains péchés, on pense que ça peut toucher uniquement le corps. On peut avoir certaines maladies. Mais plus profond, dans la profondeur, ça affecte notre âme. Ça affecte notre esprit. Nous imaginons rarement que le péché affecte tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Il n'était pas du tout heureux, mais à l'agonie de l'âme, il a continué à gémir, que ce soit de manière audible ou dans son esprit toute la journée. Ce que David dit, je gémissais la nuit et le jour. Il compare cette expérience à la main lourde de Dieu sur lui. C'était la main de Dieu qui discipline. Quand un enfant de Dieu pêche et vit dans le péché, Dieu ne le laisse pas dans l'état où il est. Au lieu de cela, Dieu le discipline. L'auteur du Nouveau Testament dit, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Hébreux 12:10. David compare cette expérience à sa force qui lui a été enlevée dans la chaleur de l'été. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28:13. David n'a rien caché au Seigneur dans sa prière. Il a tout avoué. David compare cette expérience à sa force qui lui a été enlevée dans la chaleur d'été. Je pense qu'hier, nous étions tous dans un état de saturation. C'était trop. Il disait la journée la plus chaude dans l'histoire même. On ne peut plus même réfléchir, penser normalement. Et le péché, c'est la même chose. Quand nous sommes enlacés par le péché, quand nous sommes envahis par le péché, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais David n'a rien caché au Seigneur dans sa prière. Il a tout avoué. Vous savez, la sensibilité spirituelle est une marque de maturité spirituelle. On devrait poser la question, combien nous sommes sensibles dans notre vie spirituelle? Combien nous sommes sensibles par rapport à la péché? Et parfois, nous n'avons pas cette sensibilité par rapport au péché. Et on pense que ce n'est pas si grave. Ce n'est pas parce que moi je pense que ce n'est pas si grave, c'est moins grave. Je devrais voir comment le Seigneur il voit ce péché que je commets. Le Seigneur Jésus, il a mort sur la croix même pour le le péché le plus petit, parce que c'était trop grave dans les yeux de Dieu. La sensibilité spirituelle est une marque de maturité spirituelle. Si vous pensez que vous êtes très mature spirituellement, posez-vous la question, est-ce que je suis spirituellement très sensible? Puis vint le tournant, sa misère pesait tellement lourd sur lui que David décida de confesser son péché à l'Éternel. Confesser son péché, ce n'est pas seulement s'excuser. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec Dieu, que vous avez péché contre lui. David n'a pas dissimulé son iniquité. Cela signifie qu'il a honnêtement mis à nu devant Dieu son acte pécheur. Vous savez, parfois nos excuses sont comme des feuilles de figuier. Ce que Adam et Ève, ils essaient de faire avec des feuilles de figuier. Ils essaient de faire un vêtement avec des feuilles de figuier. Et toutes nos excuses, ce sera pareil. Ça peut tomber très vite. L'honnêteté devant Dieu est importante dans la confession du péché. Quand nous confessons nos péchés, nous ne devrions pas penser qu'on connaît mieux que Dieu. On connaît mieux que Dieu. Le péché ne peut pas être enrobé de sucre ou étiqueté différemment. Il faut appeler le péché comme le péché. Mais combien de fois nous avons le courage d'appeler le péché comme le péché? Nous avons des autres mots, n'est-ce pas, les péchés mignons, des bêtises, des erreurs. On a 100 000 mots pour appeler péché autrement. Il faut appeler le péché comme le péché. En d'autres termes, n'offrez pas d'excuses devant Dieu pour votre péché. N'essayez pas d'expliquer vos péchés à Dieu. Il en sait plus que vous. Mais parfois, dans la prière, on peut expliquer des choses inutiles, hein? Mais il faut savoir que Dieu, il connaît plus que vous de vos péchés. Vous savez ce que le fils prodigue, il a dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je pense que c'est une très belle confession. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Notre repentance doit être rapide et sans attendre. Mais bien souvent, on peut reconnaître un péché, mais nous attendons très longtemps pour demander pardon. Ah, mais imaginez que votre enfant, il fait quelque chose de grave devant vous, par rapport à vous. Hein. Il a reconnu, mais il n'a jamais demandé pardon. Il attend. Tranquillement, il pense qu'un jour je vais demander pardon à mon père ou à ma mère. Notre repentance doit être rapide et sans attendre. La repentance ne consiste pas seulement à toucher nos émotions et nos sentiments. Elle doit atteindre notre volonté. Ce n'est pas seulement sentimental. Le pardon, demander pardon, ce n'est pas sentimental. Ce n'est pas seulement émotionnel, quelque chose qui touche notre émotion, mais il devrait toucher notre volonté. Vous savez, il y avait un homme dans Luc chapitre 19, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais combien de temps Zachée l'a attendu pour remettre les choses à la normale? C'était immédiat. Il a dit, Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, parfois, on peut faire certaines choses, après, on fait les calculs. C'est par rapport à la mathématique qu'on doit demander pardon. Mais non, on a commis un péché, c'est sans condition on devrait demander pardon à Dieu. Le pardon a été si immédiat. Quand David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, mais David a péché contre Uri, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre ses parents, parce que la parole nous dit que honore ton père et mère et ta mère. Mais David a péché, il a déshonoré ses parents. Donc il a péché contre toutes ces personnes. Mais David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Notre péché touche Dieu premièrement, avant que ça puisse toucher notre semblable. J'ai péché contre l'Éternel. Le prophète Nathan a immédiatement répondu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Donc le péché de David, c'était, ça méritait la punition capitale, la punition de la mort. Mais Nathan, il dit, tu ne mourras point. L'aspect immédiat du pardon remplit David d'émerveillement. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que Dieu travaille toujours en moi. Il ne lui a fallu qu'une semaine pour créer tout cet univers et tout ce qu'il contient. Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Il repose à la 7e jour. Mais il continue son travail en moi, en vous, en nous tous. Mais il faut toute une vie pour travailler en moi. Ah, jusqu'à ma mort, le travail ne sera pas fini. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire comme ça, mais le problème existe en moi. Dieu a sorti les enfants d'Israël en une nuit, mais il a fallu 40 longues années pour sortir l'Égypte de leur cœur. Ce n'est pas parce que Dieu a un problème, mais du problème du péché en vous et en moi. Vous savez, la repentance, mais David l'a repenti, la repentance ne vient pas de nous. Il ne faut pas penser que c'est moi qui ai repenti. Je ne suis pas capable de repentir. La repentance ne vient pas de moi. Ne vient pas toute seule non plus. La repentance ne vient pas toute seule non plus. La repentance vient de Dieu. La conviction du péché vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Nathan, le prophète. Il amène la parole de Dieu et dit que tu as commis un péché. La conviction du péché vient de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut nous convaincre de nos péchés et personne d'autre. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas, nous ne serons pas convaincus de nos péchés. Regardez avec moi en Actes 2, 37. Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, donc l'apôtre Pierre, il parle, il explique toutes choses. Le verset 36, je vais le lire. « Que toute la maison d'Israël sache que donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dans les autres traductions, c'est marqué « piqué dans leur cœur hein? ». Vivement touchés, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Donc, c'est la parole de Dieu qui peut nous convaincre de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Le psaume 32, deux grands péchés de David, son péché avec Bathsheba. Le résultat, c'est 4 personnes mortes. Et le deuxièmement, sa numérotation d'Israël, 70 000 personnes mortes. Mais la plus grande chose pour le peuple d'Israël, le temple et le roi. Même aujourd'hui, le temple pour Israël et le roi Les deux venaient du péché de David. Les voies du Seigneur sont mystérieuses. On ne peut pas comprendre les voies du Seigneur. Mais il peut faire de belles choses, des ruines, une vie ruinée. Le psaume 32 commence par trois mots qui dénotent le péché. Le péché, transgression, iniquité. Et se termine par trois mots de joie. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Et poussez des cris de joie. Quelle merveilleuse psaume. Vous savez, un homme de Dieu qui s'appelle Leonard Ravenhill, il a dit, le plus grand miracle que Dieu puisse faire aujourd'hui est de sortir un homme impie d'un monde impie, impie, et de le rendre saint et de le remettre dans ce monde impie et de le garder saint en lui. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il prend un homme, faire sortir un homme impie, un pécheur, d'un monde pécheur. Il le rend saint et il le remet dans le monde qui est monde de péché et il garde saint. Ce qu'il est capable de faire, c'est un grand miracle. Dieu, il peut faire, mais un homme comme David, Dieu lui-même, il a témoigné de David, un homme auprès du cœur de Dieu, auprès de mon cœur. Mais il a commis des choses horribles. Il a commis des choses horribles. Et Dieu, il a fait ce qu'il a voulu faire de lui. Et quand il a demandé pardon pour ses péchés, quand il a reçu le pardon, et quand il a confessé son péché, Dieu l'a reconstruit cet homme comme un homme que le monde, même aujourd'hui, le monde peut réjouir. Par ce nom de David, qui était l'arrière-grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Certes, nous sommes tous des pécheurs. Un poisson, on appelle un poisson parce que c'est un poisson, parce qu'il est dans l'eau, il nage. Et donc, un pécheur. Nous sommes nés pécheurs, nous sommes pécheurs. Nous sommes dans la chair, nous avons cette lutte avec notre chair. Donc, on peut commettre le péché. Mais la première chose que nous devrions faire quand nous péchons, nous avons auprès du Seigneur Jésus-Christ la pardon. Donc, confessons notre péché à lui et recevons ce pardon et soyons réconciliés avec lui. Que le Seigneur nous aide. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour pour ta parole. Seigneur, ta parole est toujours l'actualité, même si David a commis ce péché il y a plus de 2000 ans. Seigneur, nous pouvons prendre les leçons de la vie de David. Et nous ne sommes pas différents que David, même nous sommes moins que David, Seigneur, dans notre vie. Mais Seigneur, tu es le même Dieu. Seigneur, tu pardonnes le pécheur. Tu es venu pour chercher le pécheur, Seigneur, ceux qui étaient perdus. Seigneur, nous, sans excuses, sans de feuilles de figuier, Seigneur, nous viens vers toi comme nous sommes. Seigneur, prends-nous et fais de nous ce que tu voudras faire. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Que, Seigneur, rien ne peut nous empêcher de notre étroite communion avec toi. Que Seigneur, nous jouissons cette communion comme des enfants de lumière et non comme des enfants de ténèbres. Seigneur, ta parole nous dit que c'est la promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et